J'aimerais commencer par faire un petit sondage au sujet des promesses de Dieu, contenues dans la Bible. Je vous pose une question. Et puis ensuite, vous levez simplement la main pour dire si c'est l'option juste ou fausse. Croyez-vous que dans la Bible, je vous donne trois nombres, hein, et puis ensuite vous choisirez, que dans la Bible il y a 365 promesses de Dieu, ou il y en a 720 ou 866. Alors, qui est pour la première option de 365? Voilà. La deuxième option, 720. Et puis la troisième, 866. Très bien, vous avez voté. Maintenant, je vais vous dire qui a gagné. C'est ceux qui ont levé la main pour 866 promesses. Vous êtes contents, hein? Et puis pour les autres, ben, ça prouve que vous avez encore du chemin, hein? Vous avez encore plein de choses à découvrir, hein? C'est pas grave. Alors, c'est pas moi qui les ai comptés, mais quelqu'un l'a fait à ma place et a indiqué ce nombre. Donc j'accorde ma confiance à ce nombre. Maintenant, rassurez-vous tout de suite, je ne vais pas commenter ce matin ces 866 promesses. C'est pas le contraire que je vais faire, mais je vais mettre l'accent sur un autre aspect des promesses. C'est les promesses que nous pouvons nous faire ou pas faire. C'est un thème qu'on aborde rarement. C'est extrêmement agréable pour un pasteur d'aborder, ou dans une étude biblique, hein, ou par les chrétiens, d'aborder le thème des promesses de Dieu. C'est agréable, ça rassure, ça fait du bien, ça motive, et tout cela. Mais il y a un autre aspect du mot promesse qui m'interpelle beaucoup. Parfois, il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie qui nous pousse finalement à réfléchir sur certaines choses. Je prends un petit exemple qui s'est passé, que j'ai vécu il y a peut-être 2 semaines. J'étais chez notre fils cadet qui revenait de l'île de la Réunion avec sa famille, et puis un dimanche après-midi, j'écoutais un peu son rapport de voyage. Ils ont 3 enfants et le deuxième mène à 4 ans. Et nous étions au salon. Et à un moment donné, on voit que Ben enlève son pantalon, enlève son pull. Sam me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ben, je m'habille. Ah oui? Et en effet, c'est ce qu'il se préparait à faire, c'est à mettre son maillot de Ronaldo, brésilien donc, et puis ses shorts de footballeur. Et il me dit, grand-papa, on fait un match. Et puis je lui dis, d'accord, attends un moment, et puis je viendrai, je suis occupé à autre chose. J'ai fait une promesse. Je lui ai dit, je vais venir faire ce match. C'est pas inhabituel. Chez lui, quand je suis chez lui, il y a tout le temps des matchs. Ça passe de la cuisine au salon, à la chambre, avec une petite balle comme ça, et c'est extrêmement mouvementé et intéressant. J'ai fait une promesse à mon petit-fils. Il a cru que j'allais tenir ma promesse. Mais les circonstances ont fait qu'après, on a passé à table, et puis après, le temps passé, et puis après, ça m'a dit, mais il faut vous mettre en pyjama, et puis après, nous, on a dû rentrer, donc on est rentré. Qu'est-ce que j'ai laissé comme image ce jour-là à mon petit-fils? Soyons honnêtes, celle d'un grand-papa qui promet mais qui ne tient pas sa promesse. Soyons honnêtes, c'est ça. Je m'en suis beaucoup voulu, j'ai pas encore pu réparer ce problème, mais le fait est que ce jour-là, je n'ai pas été vrai. J'ai promis quelque chose à un enfant et je n'ai pas tenu ma promesse. Donc je ne suis pas fier de le dire. Mais ça m'a poussé à réfléchir sur toute cette question des promesses que l'on fait parfois un peu facilement et puis qu'on ne tient pas. Alors, il y a des petites et des grandes promesses. Par exemple, il y a des promesses qu'on se fait entre nous. Je vais prier pour vous. Je viendrai te visiter. je viens jouer avec toi dans un moment. Promesses plus sérieuses, il y a des promesses de mariage, il y a des promesses d'avancement professionnel, il y a peut-être la promesse qu'on a faite à son épouse de faire un voyage qu'elle souhaite. Il y a la promesse d'aide à un chrétien du Sud, d'un pays défavorisé économiquement. Et puis il y a aussi la promesse de débarrasser un certain désordre, peut-être dans une chambre. Il y a la promesse de ranger les outils de jardin avant l'hiver. Et puis plein d'autres. Des promesses. Une promesse, c'est un engagement. Une promesse, c'est une manière de dire « j'ai entendu » ou alors « je pense que ça serait bien, je vais la faire ». Et puis on ne le fait pas. Alors on peut se dire « bon, c'est pas si grave ». Mais en réalité, c'est quand même assez grave. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons dire la vérité. Nous devons tenir nos engagements. Alors je vais maintenant prendre d'abord quelques versets de la Bible qui nous rendent conscients de cela. Et puis, je vais les aborder un peu autrement. Je me suis posé cette question. Comment l'apôtre Paul, qui est un voyageur extraordinaire d'une église à l'autre, d'une prison à l'autre, etc., comment il abordait la question de ses projets? Eh bien, j'ai découvert qu'il était absolument sincère dans sa manière d'envisager ses visites futures. Je prends un exemple, 1 Corinthiens 16, le verset 7. Il dit « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, peut-être, ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Il a un projet, c'est certain. Il aimerait vraiment le réaliser. Où il dit, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Ça, c'est son projet. Et peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer. Il y a une énorme différence dans je promets ou j'espère. Et il y a d'autres références qui nous le montrent. J'en ai noté une dans Philippiens 2. Verset 19 d'abord. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Et le verset 23 va dans le même sens. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. C'est une nuance, ça. J'espère. J'aimerais. Mais je ne peux pas vous le promettre. Et je ne le fais pas. On en trouvera d'autres. 1 Timothée 3, je ne vais pas toutes les prendre, j'en ai 4 ou 5 simplement. 1 Timothée 3, les versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi. Il ne promet pas ce qu'il n'est pas certain de pouvoir réaliser. Eh bien, c'est une preuve de maturité, de sagesse, d'humilité, d'honnêteté. Pourquoi faisons-nous parfois des promesses un peu facilement? Parce que on les espérait, on crée une certaine joie peut-être chez celui ou ceux à qui on fait une promesse. C'est ce que j'ai fait avec mon petit gars. Je lui ai laissé espérer, croire que j'allais jouer avec lui. Et il s'est habillé en footballeur. Et puis je ne l'ai pas fait. Oh, Dieu, c'est cool, tu auras une autre occasion. J'espère. Mais je ferai attention cette fois de ne pas promettre ce que peut-être je ne pourrai pas réaliser. Mais il y a plus grave un rapport avec nos paroles. Ça me choque quand je lis ça. Mais c'est quand même une parole de Jésus. Et puis vous direz, oh, tu la mets dans un contexte un peu trop grave. Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est quoi créer un scandale? Bien sûr, il y a des grands scandales. Ceux qui font parler, qui font souffrir et tout ça, c'est scandaleux. Mais il y a ces petits scandales. Pour un enfant, si on ne tient pas notre promesse, notre engagement, il est profondément déçu, un peu cassé finalement. Il se dit, je croyais mon grand-papa, je crois les adultes, je crois ma maman quand elle me dit quelque chose, qu'elle me promet quelque chose, et puis ça se passe pas. Est-ce que je peux encore faire confiance aux adultes? Voilà ce qui se passe dans la tête d'un enfant lorsqu'on ne tient pas nos promesses. Est-ce qu'on est crédible après? Parfois, ma maman, mon papa m'a promis quelque chose, mais il ne l'a jamais fait. Donc, c'est pas très sérieux ce qu'il dit. C'est des fois vrai, puis des fois c'est pas vrai. Une maman disait, ce n'est pas toujours facile, mais je trouve que c'est primordial. Elle ajoutait, nos enfants comptent sur nous, et lorsqu'on ne tient pas une promesse, on peut voir la grande déception qu'ils ressentent. Ils peuvent réagir de bien des manières, des pleurs, de la colère, de la frustration, et même au bout d'un moment ne plus réagir du tout, ne plus s'attendre à ce que leurs parents tiennent leurs promesses. Et cette maman disait, j'essaie toujours de tenir les promesses que je fais à mon garçon, alors je ne fais pas de promesses que je ne pourrais pas tenir. Il faut aussi noter ceci, il y a parfois des promesses que l'on ne peut malheureusement pas tenir pour des raisons qui nous sont extérieures. Elle ajoute cet exemple que je trouve intéressant. Pendant les vacances, j'avais promis d'amener mon petit garçon à la piscine. J'ai regardé les horaires et nous avons convenu d'un jour. Le jour dit, nous arrivons devant la piscine, mais elle est fermée pour vidange. Je me suis donc excusé de ne pouvoir l'amener et j'ai expliqué le problème en marquant bien aussi ma déception. Nous avons été très déçus tous les deux, mais il ne m'en a pas voulu. Il a compris que je n'ai pas rompu ma promesse, mais que des événements extérieurs étaient responsables et nous avons reporté la sortie à la semaine suivante. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça peut arriver. On est très sincère, ça doit marcher et puis il y a un événement extérieur qui fait qu'on ne peut pas tenir la promesse. Ça, il faut le comprendre. Il y a 8 jours environ, nous avions en visite un jeune couple chez nous pendant 1 ou 2 jours. Il disait ceci, la sœur du mari a eu plusieurs enfants. Elle en a eu un, avec un mari, ça a très mal tourné, ils se sont divorcés. La jeune femme s'est remariée, mais l'ex-mari, l'enfant donc a grandi, je pense qu'il a à l'heure actuelle 13 ans environ, le papa a fait une pression extrême sur son fils pour qu'il ne soit pas chez la maman mais chez lui. C'est hélas des problèmes qui arrivent très souvent. Mais l'enfant, le garçon, n'avait pas envie d'être chez son papa. Pour toutes sortes de raisons valables. Alors, il voulait rester chez sa maman, qui était prête à le garder. Et alors, le papa a fait une promesse. Il a dit, écoute, si tu viens habiter chez moi, je te promets que je vais te payer des cours de sport et tout ça. Et le gosse, ça avait une formidable envie de faire ça. Alors il a cédé. Et le garçon est allé chez son papa. C'est près d'une année qui a passé, le papa n'a pas tenu sa promesse. Et l'enfant se retrouve très souvent, pour ne pas dire toujours, seul chez lui. À midi, il doit manger tout seul, le papa n'est pas là. Le soir, il doit manger tout seul, le papa n'est pas rentré. Il passe ses soirées tout seul, il n'a rien. Et puis la promesse ne se réalise pas. Il ne voit pas son papa, qui ne s'intéresse pas à lui, qui s'en fiche complètement parce qu'il a d'autres préoccupations, mais il a gagné cette bataille de prendre son fils chez lui. La conséquence, eh bien, ce garçon est devenu, et il est un énorme problème de la société à l'école. Il est invivable, il est ingérable, il se révolte contre tout. L'école a dû le renvoyer dans certaines périodes. Parce que pourquoi cet enfant est tellement révolté, pourquoi? Ben, il y a une raison. Les adultes, son papa, l'a profondément déçu. Il s'est fait tromper et il se révolte comme il peut. C'est assez grave parce que ça pourrait finir gravement. Nous devons faire attention à nos promesses. Et le message très simple que je vous donne ce matin, c'est le Seigneur remet à votre mémoire, fait remonter à votre mémoire une promesse non tenue. Peut-être n'est-il pas trop tard pour réparer, pour en parler avec la personne concernée, pour reconnaître qu'on a mal fait. Il faut peut-être demander pardon pour une promesse non tenue. Et puis, dans la mesure où c'est possible, essayer, non pas avec une promesse, mais en espérant pouvoir réaliser ce qui était prévu. Mais je sais que c'est très sensible, très sensible. Je pense surtout au niveau du couple. Combien de couples se sont créés des tensions pas possibles pour des promesses non tenues? Je ne parle pas forcément de celles qui conduisent un couple à une rupture, parce que c'est dans l'habitude, en tout cas dans notre culture, que lors d'un mariage, il y a les promesses de mariage. Vous êtes d'accord, on entend ça, hein? L'église est remplie, il y a eu la musique, c'est génial, et puis le pasteur est là, il s'est bien préparé, il y a les témoins qui sont là, c'est une fête merveilleuse, et puis le couple se lève, s'approche, il y a quelqu'un qui arrive avec des merveilleuses alliances sur un petit coussin, c'est merveilleux, et puis il y a, avant ça, il y a les promesses de mariage. Alors, c'est un ou l'autre qui commence, ils ont le trac, ils ont le papier, ils ont tout écrit, hein. Et puis ils promettent plein de choses, ils en écoutent, et puis il y a la maman qui se met à pleurer, bien sûr, hein, parce qu'elle entend des choses extraordinaires, puis le papa qui se crispe pour pas pleurer, justement, et puis il y a toutes ces belles promesses, je te promets que je serai là dans les bons, dans les mauvais jours, que tu seras santé, je ferai tout pour toi jusqu'à... Alors ils disent pas la mort, mais tant qu'on vivra, hein, parce que ça fait plus sympa quand même, hein. Et puis après... C'est la jeune femme qui essaie de maintenir son émotion, puis elle fait des promesses extraordinaires. Je serai toujours là pour toi. Quand tu seras découragé, je vais te chérir, je vais t'encourager, je vais te câliner. On se dit, oh, si le mariage, c'est ça, mais extraordinaire, hein? Et puis la cérémonie est terminée. Vous savez bien comment ça se passe. Et puis la journée continue. Il y a encore la soirée avec un festin extraordinaire. Et puis vous rencontrez ce couple une année plus tard ou deux. Les promesses, franchement, c'était bien ce jour-là. Mais qu'est-ce qu'elles ont été oubliées? Comment voulez-vous que les gens croient à des promesses? Comment voulez-vous que les jeunes croient à des promesses? Moi, ce qui me rassure, c'est que je ne sais pas si j'ai promis quelque chose lorsque je me suis marié. Bon, j'ai signé que j'étais d'accord de me marier, c'est évident. Mais de ce temps-là, en tout cas dans notre milieu évangélique, c'était pas si extraordinaire comme fête. En tout cas pour la nôtre, on ne souhaitait pas, on voulait que ça simple, quoi. Donc je peux pas me dire tout ce que j'ai promis publiquement. Mais je sais quand même certaines choses, c'est que je m'étais engagé très sérieusement, parce que c'était dans les contrats de mariage, ce temps-là, à subvenir aux besoins de mon épouse et aux enfants si on en recevrait. D'accord. Ça, c'est un engagement que j'avais pris, c'est vrai. Et depuis 45 ans qu'on est mariés, par la grâce de Dieu, surtout, j'ai pu tenir cette promesse. Et j'en suis fier, en quelque sorte. Je suis très content. Mais c'est parce que Dieu m'en a donné la force. Parce que parfois, on a tendance un peu à oublier. Et voilà. Il y a des promesses qu'on ne tient pas. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil que j'ai remarqué. C'est que le simple fait, des fois, d'écouter une personne qui nous fait part de ses besoins, de lui accorder notre attention, c'est déjà une forme de promesse. Et vous le savez, certains d'entre vous, j'ai quand même travaillé pendant une vingtaine d'années pour les pays du Sud, l'Afrique de l'Ouest, puis aussi Haïti. Et j'ai dû apprendre beaucoup de choses. D'abord, j'étais six ans parmi eux, donc je vivais avec eux à fond, dans les médias, c'est vrai, mais je prêchais aussi et tout ça. Puis ensuite, pendant 14 ans, j'avais ce poste extraordinaire, à leurs yeux, d'être secrétaire général d'une ONG franco-suisse. Vous imaginez ce que ça peut faire comme résonance chez une personne qui est pauvre, qui a de vrais besoins, chez une église qui n'a pas les moyens de mettre un toit sur les murs. Le secrétaire général est là, il est franco-suisse, mais il est suisse. J'aimerais lui présenter une demande. Hein. Alors, ils appellent ça des doléances. C'est beau. Et parfois, oh, j'ai beaucoup appris dans toutes ces années, vous imaginez. Mais je dis, ben, par respect, tu écoutes tous ses besoins. Et j'accordais beaucoup d'attention. Parfois, je prenais des notes et puis ils me disaient, ben, si on veut acheter un temps en tôle, ça coûte tant de 588 000 CFA. Je notais tout ça et ils me voyaient noter tout ça. Et puis je rentrais en Suisse, je faisais mes rapports, mais il était évident, je le savais d'entrée, que quand je revenais de deux semaines de mission, j'en avais pour des millions et des millions de CFA de doléances. Et nous n'avions pas les moyens de résoudre tout ça, parce qu'il y avait encore plein d'autres doléances. Et puis je me suis rendu compte par expérience que plusieurs fois j'ai fait une grosse erreur. Le fait que j'accordais mon attention était déjà une promesse pour eux, dans leur manière de penser. Mais ça peut aussi arriver ici. Une personne qui est vraiment dans le besoin ici, elle peut être de Suisse, hein, avoir un passeport suisse, mais elle vous présente des besoins, vous l'écoutez attentivement, vous la visitez peut-être et tout ça. Elle se dit, mais cette personne, elle a pris du temps pour m'écouter, elle a noté tous mes besoins, elle va m'aider à les résoudre. Mais ce n'était pas notre projet. Donc on crée une déception. On n'a pas tenu aux yeux de l'autre une sorte de promesse qui n'avait pas été évoquée par notre bouche. Mais comment faire? Bon, en ce qui me concerne, je parle en tant que témoin, j'ai hélas trouvé une autre méthode pour éviter de donner l'impression que j'allais à résoudre un problème alors que ce n'était pas mon intention, que je ne pouvais pas. Quand des amis d'Afrique me téléphonent, vous savez qu'aujourd'hui nos téléphones, ils affichent aussi le numéro de celui qui nous téléphone. Donc on peut très bien savoir qui nous téléphone. C'est pas un problème. Vous allez dire, mais tu fais ça? Je vous parlais franchement. Pendant plusieurs mois, je pense à l'année dernière, le matin tôt, ça sonnait. Des fois j'étais encore au lit. Alors, je regarde le téléphone. Oh, c'est mon ami d'Afrique qui téléphone. Mais je ne décrochais pas. Et non, tu faisais ça? Oui, oui. Je ne décrochais pas. Alors, ça sonnait 5-6 coups, ça s'arrêtait. Et puis, une ou deux semaines après, ça recommençait. Je ne décrochais toujours pas. Je me disais, mais t'es un malhonnête ou quoi? Non? Ben, je savais très bien ce que j'allais entendre. Et comme je n'étais pas en mesure de répondre, je ne voulais pas laisser un espoir. Mais environ deux semaines avant Noël, le téléphone a sonné. J'ai vu que c'est mon ami. J'ai décroché. Il m'a donné quelques nouvelles. Il est poli, il est bien élevé, c'est un homme très bien avec sa femme. Mais je savais qu'il y avait un immense besoin de leur offrir à une douzaine d'enfants orphelins, hein, qui recevaient leur offrir un repas de Noël. Parce que quand on est excessivement pauvre et que Noël arrive et qu'on est entouré d'une douzaine d'enfants, ben ça ne doit pas être drôle, hein. Et de s'imaginer que, puisqu'on vit souvent dehors, dans ces pays-là, eh bien, de vouloir mettre la table quand il n'y a rien à manger, et d'avoir les maisons qui sont autour où les gens ils font la fête, où les enfants reçoivent des petits cadeaux, ça mange bien, c'est l'horreur, ça. Pour des parents qui reçoivent aussi des enfants. Alors là, j'ai décroché, et puis je lui ai dit, écoute, c'est un sujet de prière, mais vraiment, j'espère, hein. J'ai dit, tu peux y croire. Sauf un imprévu vraiment majeur, tu sauras que samedi prochain, je me tiens debout, sans bouger, pendant 2 heures devant la Migros, avec une tenue de berger, et puis je ferai en sorte que les gens ils donnent de l'argent dans la cruche que je mets devant moi, et tout cet argent, je vais te l'envoyer pour le repas de Noël. J'ai fait une promesse. Avec une condition, c'est que je sois encore vivant ce jour-là, hein. Et puis que, voilà. Mais je me suis préparé pour. Et puis, ben, j'ai fait ce que j'avais prévu. Et puis ensuite, quand on a récolté ainsi quelques centaines de francs en très peu d'heures, sans que je bouge, sans que je parle, vous savez, je bouge juste la tête quand quelqu'un, j'entendais qu'il mettait quelque chose. Ben, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, tu peux aller à la poste ou à la banque, par la Western, vous savez que c'est instantané, hein, et tu peux retirer tel montant. Oh, c'était là une immense joie. Mais là, j'avais fait une promesse et j'ai pu la tenir. Et j'ai laissé à mon ami africain l'espoir que j'allais l'aider. Et comme il a confiance en moi, ben il m'a fait confiance. Et j'ose pas imaginer la joie qu'il y a eu à Noël autour de cette table, dans cette cour, hein, parce qu'ils ont pu faire une fête. D'ailleurs, j'avais déjà fait la même chose une année avant, et quand j'ai reçu le petit rapport avec des photos, il disait, les enfants et les familles du voisinage se disaient, c'est incroyable, ce sont des orphelins, ils mangent mieux que nous, ils ont des plus beaux cadeaux de fête que nous, il y a un miracle dans cette cour. Et il était fier en tant que papa, si on peut dire, de dire, on a pu faire quelque chose d'extraordinaire. Donc vous voyez que c'est subtil. Laisser planer l'espérance, c'est déjà une forme de promesse. Et nous devons être attentifs de ne pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Je prends un autre exemple, très, très terre à terre, hein. Je sais que je suis assis ce matin. Vous aurez certainement d'autres pasteurs qui vous feront, dans les dimanches qui viennent, des développements plus théologiques. Et c'est très bien. Mais voilà, une personne dit ceci. Encore une fois, je suis confronté à une personne qui ne tient pas sa parole. Et j'en ai marre. Au mois d'août, j'ai subi un petit dégât des eaux et ma table de salle à manger en teck a été endommagée. Oh, rien de grave. Des taches d'eau disgracieuses. Un bon ponçage, elle n'y paraîtra plus. Je me suis tourné vers un très bon ami qui est très bricoleur et qui possède des outils professionnels. Je lui ai demandé si je pouvais emprunter sa ponceuse en lui expliquant le problème. Sa réponse a été très gentille. « Mais oui, je te prête ma ponceuse, et même je vais faire ce travail moi-même, c'est rien du tout, promis, juré. » Toute contente, je lui ai dit qu'il peut venir à sa convenance. Le temps passe, 15 jours, je lui rappelle sa promesse. « Mais oui, je vais venir, mais je suis très pris. » Bon, je laisse encore passer 15 jours, on arrive en octobre. Toujours pas de rendez-vous fixé. Je retéléphone un peu humilié de devoir encore demander. Il vient voir les dégâts, mais ne dit pas quand il pourra faire le boulot. 15 jours plus tard, je lui dis que bon, si ce n'est pas possible, je trouverai une autre solution. Mais là, il s'insurge. Mais non, je vais le faire, je t'ai promis. On est presque en novembre et je n'ai pas de nouvelles. Je suis à la fois vexé et très irrité contre cet ami que j'adore. Je ne sais pas quoi faire, j'en ai marre. Je ne vais quand même pas le supplier. On dirait qu'il souhaite que je laisse tomber et qu'on ne parle plus de ça. Comme si c'était oublié, pas important. Au départ, je voulais juste lui emprunter un outil, rien de plus, et maintenant ça tourne bêtement à l'aigre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne pas tenir une promesse? Pourquoi ne pas avouer que finalement ça ne va pas? Elle conclut son petit témoignage, et merci de m'éclairer, sur ce comportement absurde et blessant. Vous êtes d'accord, ce sont des situations très courantes, celles-là. Nous devons, en tant que croyants, si nous nous basons sur les valeurs enseignées par la Bible, par Jésus-Christ, nous devons être crédibles. Il n'y a rien de plus fort que quelqu'un de crédible, quelqu'un qui tient parole, quelqu'un qui dit et qui fait. Dans l'Évangile aussi, il est dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dans le monde des affaires, il y a des tentations ainsi de faire des promesses. Mais ceux qui font des promesses et qui ne les tiennent pas, ils perdent leur crédibilité. Finalement, on se dit, j'ai voulu traiter une affaire avec celui-là, il me promettait quelqu'un, mais ça ne se passe pas. Je le laisse de côté, je me tourne vers quelqu'un qui est crédible, vers une société, une entreprise qui fait ce qu'elle dit, qui tient ses engagements. Et nous devons faire attention de ne pas donner des promesses pour faire plaisir, pour calmer, pour dire, ben oui, ça va s'arranger, je vais m'en occuper. Parce qu'on perd toute crédibilité. Et le jour où on annonce l'Évangile, ben ils nous disent, ouais, tu dis, mais c'est pas vraiment sérieux. Une fois c'est vrai, une fois c'est faux. Que Dieu nous aide à tenir nos promesses. C'est le béaba de la crédibilité si on veut nous écouter. Dans tout ce que j'ai pu contacter avec le monde musulman, j'ai quand même vécu dans un pays où plus de 30% des gens étaient musulmans pendant des années. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de tout genre, de musulmans, de non-musulmans, d'animistes et tout cela. Et s'il y avait une convergence sur les témoignages, ce que j'ai entendu, il me disait, ce qu'on trouve de fort chez vous les protestants, c'est que vous dites la vérité. Et c'est ça qui est plus fort que les autres. Vous dites la vérité. Je dis, mais, ben oui. Et puis alors? Et il y en a qui me disaient, mais nous les musulmans. Alors, je ne généralise pas pour tous les musulmans du monde, hein, mais ils ont acquis une expérience, un certain nombre d'entre eux, de pouvoir mentir sans que ça se voit. Il y a un savoir-faire de pouvoir mentir en face de la personne. Entre eux d'ailleurs, j'ai entendu un imam qui s'était converti, il a dit, vous pouvez détecter si vous dites des mensonges quand vous les regardez bien. Il y a des petits signes qui ne trompent pas. De nous, ils nous échappent. Mais lui qui est un imam, il disait, je les connais bien. Hein? Mais on peut acquérir l'expérience de mentir comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est une exclusivité des musulmans, attention. Mais ils ont une capacité. Si bien qu'entre eux, ils le savent très bien. Et il y a plein de promesses qui se font, mais ça ne tient pas debout. Je me rends compte aussi, et je ne fais pas une sorte d'attaque contre ce milieu-là, mais je me rends compte de l'ignorance de certains chefs d'État. Ils reçoivent des paroles d'autres chefs d'État et disent, il s'est engagé à, donc ça va marcher. Mais celui qui avait dit ça, il a dit ça pour faire plaisir à son vis-à-vis, mais il n'a jamais eu l'intention de le faire. Ça peut nous arriver à tous les niveaux, ça, dans nos sociétés, nos entreprises, nos familles, partout. Mais nous devons être conscients. On ne peut pas régler le problème des autres. On ne peut pas obliger tous les autres à être honnêtes. On ne peut pas les obliger à dire la vérité. Mais ce qu'on peut, c'est prendre l'engagement personnel d'être vrai. Tout simplement. Et de ne pas promettre comme ça pour faire plaisir. Je sais qu'il y a des promesses qui font vraiment plaisir et qui sont motivantes. Je prends des exemples très simples. Lorsque je fais une course à pied longue distance, un marathon par exemple, et que ma femme me dit « je serai à l'arrivée », elle me promet quelque chose. Hein? Et puis à l'arrivée, bon, il y a du ravitaillement en cours de route, mais je serai là avec ce qu'il faut pour encore te ravitailler bien. Mais cette promesse d'avoir quelqu'un qui m'attend à l'arrivée après une course difficile, ça me donne du moral. Je me dis, je vais arriver, elle sera là, on pourra se parler, je pourrais lui dire comme ça s'est raconté, comme ça s'est passé, et puis le fait simplement qu'elle ait été patiente pour m'attendre, elle m'a promis qu'elle serait là. Mais ça me fait du bien. Donc il y a des promesses qui nous font du bien. Il y a des promesses qui nous encouragent. Vous pouvez promettre à un jeune, par exemple, si tu réussis ton diplôme, si tu fais bien ton boulot, je promets qu'on fera ça. Mais ça peut motiver, booster un jeune. Je dis, mais attends, mon père a promis que si je réussissais ça, il m'achetait un scooter. Non, mais attends, alors je bosse à fond. Il y a des promesses qui font du bien. Mais alors, il ne faut pas les dire simplement pour encourager l'autre. Il faut être prêt à l'assumer, la promesse. Sans quoi, alors, c'est un dégât total, hein? Parce que l'autre dira, mais attends, tu m'as promis ça, j'ai fait l'effort, et puis il se passe rien. Donc prenons garde. Mais il est vrai que des promesses, si on est capable de les tenir, ça peut faire du bien. Je le reconnais. Mais des promesses non tenues, ça peut faire autant de mal. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse du mal à ceux qui nous entourent. Ni à notre épouse, ni à notre mari. Dieu, qu'on ne fasse pas du mal à nos parents, à nos enfants, à nos collègues, à nos employés. Dieu veut qu'on soit vrai. C'est simple ce que je vous l'ai dit, hein? On est bien d'accord. L'apôtre Paul nous a donné un exemple très simple. J'espère vous voir, j'espère vous rencontrer. Et puis ensuite, si ça se passait bien, il arrivait. Je vais m'arrêter là, je vais prier avec vous avant de rejoindre ma place. Seigneur, nous reconnaissons que c'est très facile de faire des promesses pour faire plaisir, pour éliminer un problème, pour retarder une solution, un engagement. Si tu mets à notre mémoire, à notre conscience, une promesse non tenue, Seigneur, qu'on n'en reste pas sur la culpabilité, mais dans la mesure du possible, que l'on puisse tenir nos promesses. Demander pardon si on a déçu quelqu'un, peut-être de très proche, par une promesse qu'on n'a jamais vraiment tenue. Et ta parole nous le dit clairement, ne devons pas être cause de scandale pour qui que ce soit. Donne-nous aujourd'hui la force, la joie, la volonté de remettre les choses en ordre si c'est nécessaire dans notre vie en rapport avec nos promesses. Il est vrai qu'on ne peut pas instantanément tout réaliser, mais Seigneur, que l'élan soit pris, que la volonté soit là, que rien ne nous arrête dans la réalisation de nos promesses. Rends-nous prudents, Seigneur, lorsque nous parlons, lorsque nous laissons espérer quelque chose, et que ta parole, Seigneur, ta parole nous conduise dans toute notre manière de réfléchir, d'agir, de penser, de nous engager. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore désolé d'être arrivé plus tard que prévu, mais quand même pas trop tard, hein. Parce que ça rassure jamais les présidents de culte quand le prédicateur arrive pas, il se dit mais est-ce que je devrais prêcher tout seul. Bon, tout va bien, hein? Merci beaucoup et bon dimanche à tous.